Votre grand journal de soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est parti pour notre débat autour du cannabis. Faut-il légaliser le cannabis ? On n'arrive pas à l'interdire, doit-on pour autant légaliser le cannabis ? Ce soir, nous évoquerons les volets santé, volet sécurité et puis le volet économie aussi avec mes invités autour de la table. Alors dans cet ordre-là, justement, docteur Bertrand Lebovici, pardon, médecin addictologue aux hôpitaux de Paris et Paul Brousse à Villejuif, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de police Alliance. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Emmanuel Auriol, professeur à la Toulouse School of Economics, co-auteur du rapport du CAE, le Conseil d'analyse économique sur le cannabis. Comment reprendre le contrôle ? C'est l'objet de ce rapport. Je rappelle que le Conseil d'analyse économique est rattaché, c'est un groupement d'économistes rattaché à Matignon. C'est votre préconisation, c'est vous aussi, pas seulement, il y avait cette tribune dans l'Obs hier, c'est vous aussi qui remettez le débat sur la table. C'est l'idée, légaliser pour reprendre le contrôle.
Oui, bonsoir. Tout à fait, c'est le thème du rapport, c'est son titre. Et la, d'ailleurs, la une de l'Obs est liée à ce rapport, en fait. L'objectif, le point de départ du rapport, c'est en fait un échec dans notre politique publique. Cet échec, c'est quoi ? C'est la combinaison en fait, d'une très grande disponibilité du cannabis, notamment dans les écoles, les collèges et les lycées. Il faut voir qu'en 2014, on était des taux de prévalence pour les moins de 17 ans de 50%. Quand on est à ce niveau-là, ça veut dire que toutes les familles sont concernées, 50%. Hein, ça veut dire qu'un enfant sur deux a déjà expérimenté le cannabis mineur. Or, s'il y a quelque chose sur lequel on s'est penché là-dessus pour écrire ce rapport, les médecins sont unanimes, c'est qu'il ne faut pas que les enfants consomment du cannabis, des psychotropes en général. Le cerveau mature lentement, et je parle sous le contrôle, évidemment, du professeur Bertrand Lebovici. J'ai du mal à le prononcer, pardon. C'est ça le problème. Alors, on pourrait dire que c'est parce que la police ne fait pas son travail. Et en fait, la police fait son travail, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup dans la répression. C'est pas qu'on est laxiste.
568 millions d'euros par an contre le cannabis, 70% consacrés aux actions des forces de l'ordre. C'est ce qu'il y a dans votre rapport.
Alors, ce qu'on évalue, c'est qu'il y a plus de 100 000 arrestations par an de gens qui consomment du cannabis, puisqu'il faut savoir qu'en France, on criminalise l'usage, pas que le deal, mais aussi l'usage. Et donc, c'est évalué à plus d'un million d'heures de travail des policiers. Donc, c'est un paradoxe français, répression maximum, et consommation maximum, ça va pas.
D'abord, pour qu'on soit bien clair sur le débat, docteur Bertrand Lebovici, sur les jeunes, les mineurs, là, on est tous d'accord, il n'est pas question d'ouvrir la consommation de cannabis pour les moins de 18 ans.
En tout cas, jusqu'à présent, personne ne l'a fait. Alors, on est d'accord, je pense qu'il faut séparer le cannabis à usage thérapeutique et le cannabis récréatif.
On parle du cannabis récréatif.
Sur le cannabis récréatif, pour aller vite, en 2013, l'Uruguay a légalisé le cannabis récréatif et d'ailleurs a choisi le monopole d'État. Le modèle, c'est le monopole d'État. Par ailleurs, il y a 10 États américains, dont la Californie, qui ont légalisé le cannabis récréatif. 25 ont légalisé le cannabis à visée thérapeutique, mais cannabis récréatif, il y a 10 États qui l'ont légalisé. Et puis surtout, je dis surtout parce que c'est quand même un pays du G7, le 17 octobre dernier, le Canada a mis en œuvre la loi qui avait été votée et qui est une loi de légalisation du cannabis récréatif. Donc si je me résume, il y a aujourd'hui deux pays qui ont légalisé le cannabis récréatif sur les 200 pays de l'ONU. Alors on va dire que c'est pas beaucoup, mais évidemment ça change complètement les choses, d'autant plus qu'on commence à avoir des données sur ce qui se passe lorsqu'on légalise. Et par ailleurs, 10 États américains, dont la Californie, les deux premiers c'était le Colorado et l'État de Washington. Et pardon, c'est intéressant parce que ce sont des États qui ont légalisé en 2014. Donc 5 ans après, on commence à avoir des données sur toutes sortes de choses.
Oui, sur le trafic, sur la santé, sur l'économie aussi. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de l'économie. Pour le Colorado, je m'en souviens de ce miracle vert qui arrivait d'un seul coup. On va s'intéresser à tous ces aspects. Stanislas Godon, concrètement, 568 millions d'euros, je n'ai pas donné le détail, 70% pour les forces de l'ordre, 20% au service judiciaire et pénitentiaire, et 10% sur le financement de la prévention, les soins et la recherche. Vos hommes, les hommes que vous représentez ce soir, les hommes et femmes que vous représentez ce soir, Stanislas Godon, ils n'ont pas mieux à faire.
Alors, attention, parce que j'entends souvent politique répressive exceptionnelle en France, notamment sur l'usage de cannabis. Il n'y a pas de politique répressive en France parce qu'elle n'est pas appliquée. Ce qui est écrit dans la loi n'est pas en application directe, notamment dans la réponse pénale qui est apportée. À l'heure d'aujourd'hui, je crois que sur les 1 million d'interpellations, effectivement, 1 million d'heures plutôt, générées par le travail des policiers et le nombre d'interpellations, citez-moi un exemple d'usage de cannabis où les personnes sont allées en prison, puisque c'est un an de prison normalement. Je ne crois pas que c'est la réponse pénale qui a été apportée. Je crois que c'est plutôt, effectivement, des mesures alternatives, notamment sur du contrôle.
Avec, j'ajoute, une forme d'inégalité selon le département où vous vous trouvez, selon la région où vous êtes.
Ça, c'est une question de TGI, notamment. Et de justice, voilà, c'est autre chose et c'est pas ma partie. Mais vous savez, nous, quand on parle de chaîne pénale, on parle de la police et de la justice, parce qu'il faut pas opposer les deux. Mais de temps en temps, quand même, les policiers, ils s'aperçoivent que quand ils procèdent à des interpellations, lorsqu'ils démantèlent notamment des trafics, souvent, la réponse n'est pas à la hauteur du travail effectué par les enquêteurs, notamment.
C'est vrai que vous prenez, Emmanuel Auriol, pour acquis ce travail de la police. Et c'est vrai qu'on le dit, et moi le premier, je l'ai encore dit beaucoup ce soir, qu'on a une des politiques les plus répressives sur le cannabis. Si ça ne va pas au bout, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a une politique répressive ?
C'est du gaspillage, effectivement, puisque... Il y a aussi une des incitations qu'il faut revoir. Il y a une notion de politique du chiffre pour certains fonctionnaires. Et donc, effectivement, le cannabis, enfin, arrêter un fumeur de joint, c'est formidable parce que vous avez le problème et vous l'avez réglé à la fin. Mais ça prend du temps et de l'énergie. Et je pense que... Alors, ce n'est pas les mêmes qui pourchassent les dealers de haut niveau, les réseaux mafieux. Il y a une police qui est dédiée à ça. Et ceux qui arrêtent des gens dans la rue, ce n'est pas les mêmes. Mais ça les occupe beaucoup. Donc, ce n'est pas très efficace, effectivement.
19h28. Europe 1. Une première toute petite pause, le débat qui continue de toute façon jusqu'à 20h avec Jean-Claude. Je vois Jean-Claude qui nous appelle de Brive-la-Gaillarde et qui va intervenir dans quelques instants. À tout de suite.
Vos invités jusqu'à 20h, Mathieu Béliard, Emmanuel Auriol, professeur à la Toulouse School of Economics, co-auteur du rapport du CAE, le Conseil d'analyse économique sur le cannabis, comment reprendre le contrôle. Docteur Bertrand Lebeau-Lebovici, médecin addictologue aux hôpitaux de Paris et Paul Brousse à Villejuif. Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de police Alliance, et vous intervenez au 39-21.
Comme Jean-Claude, en Corrèze, donc à Brive-la-Gaillarde. Bonsoir Jean-Claude.
Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Vous intervenez dans ce débat sur la légalisation du cannabis. Votre regard déjà, Jean-Claude ?
Déjà sur l'existant, comme produit addictif légalisé, enfin légal, il y a déjà le tabac ordinaire et l'alcool. Le tabac, les jeunes de moins de 18 ans y ont accès. Pour arrêter ça, c'est au bout de plusieurs années, dizaines d'années même, c'est assez compliqué, malgré que l'on augmente les prix de plusieurs centimes d'euros régulièrement.
Objectif, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est objectif 10 euros 2020 ou 2022,
voilà.
Je ne sais plus.
Voilà, mais ça c'est progressif, mais on y arrive. Mais ça ne suffit pas à faire arrêter tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dépendants de ça. Et c'est, au point de vue sanitaire, c'est assez désastreux déjà. Il y a des cancers, des décès, plein de choses.
Je vous garde, Jean-Claude, parce que je le sais, vous n'avez pas terminé votre propos. Et je me tourne d'abord vers le docteur Bertrand Lebeau-Lebovici. Est-ce que en termes de nocivité, le cannabis, c'est comparable avec la nocivité du tabac ? Alors, même si on utilise du tabac quand on fume du cannabis.
Alors, si vous voulez, c'est une histoire compliquée. Un des meilleurs arguments de ceux qui sont hostiles à la légalisation du cannabis, c'est de dire, écoutez, on a déjà deux poisons légaux, le tabac et l'alcool, qui tuent des dizaines de milliers de personnes par an en France. J'y reviendrai, mais entre 35 et 40 000 personnes pour l'alcool, près de 70 000 pour le tabac. Et vous voulez ajouter un troisième poison légal à ces deux premiers poisons. L'argument est puissant, mais en réalité, ce n'est pas exactement comme ça que les choses se présentent. D'abord, comme on l'avait remarqué, on perd sur les deux tableaux en France actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction du cannabis, il y a une prohibition du cannabis, mais une consommation qui est absolument vertigineuse si on songe que la drogue et son usage sont interdits. Et on a tous les inconvénients de la prohibition, c'est-à-dire les groupes criminels, l'économie souterraine, la qualité totalement erratique des produits, etc. etc. Tout à l'heure, j'évoquais le Colorado. Au Colorado, il s'est passé beaucoup de choses intéressantes, mais il y a une chose qui est particulièrement intéressante, c'est le fait qu'il y a eu une substitution partielle, certes, mais il y a eu une substitution de l'alcool par le cannabis. On a vu les consommations d'alcool diminuer d'entre 15 et 20%. Alors, ça ne veut pas dire que le cannabis va remplacer l'alcool, mais ça veut dire qu'en tout cas, partiellement, il peut y avoir une substitution.
L'addictologue, le médecin, il en pense quoi d'un patient qui passerait de l'alcool au cannabis ? Entre boire deux bières chaque soir ou fumer un pétard ?
Non, mais il faut être, si vous voulez, dans, dans les milieux de l'addictologie ou des neurosciences, il n'y a pas de... Enfin, en dehors de l'Académie nationale de médecine, il n'y a pas de débat sur ces histoires de toxicité. C'est-à-dire que, assurément, d'ailleurs, les jeunes, c'est un argument qu'ils utilisent. La toxicité de l'alcool est bien supérieure à celle du cannabis. L'alcool, par exemple, c'est neurotoxique. Ça attaque le système nerveux. C'est hépatotoxique. Ça détruit le foie. Et il suffit de voir les décès liés à l'alcool pour constater.
Alors, ça pour veut vous, pas y dire y que. Il n'y a même pas de débat sur ce point-là, en tout cas, en termes de toxicité.
En tout cas, si vous voulez, ça ne veut pas dire que le cannabis est une substance anodine. Pas du tout. Ça veut dire que sa toxicité. Si vous voulez, il y a. Un point, à mon avis, qui est hyper important, c'est l'histoire de la vaporisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas promouvoir les formes fumables de cannabis. Ce qu'il faut promouvoir, c'est des formes vaporisées. Parce que on n'a pas... Parce que, si vous voulez, dans la fumée... dans la fumée du cannabis même pur, il y a toutes sortes de substances toxiques.
C'est de la fumée, bien sûr. Jean-Claude, parce que je vous ai coupé.
Oui, Mathieu. Oui.
Vous aviez un deuxième point à évoquer,
oui,
vous vouliez rebondir.
C'était l'alcool, justement. L'alcool, bon, c'est dangereux, c'est toxique. Ça, le professeur l'a bien dit. Il y a un petit souci que je connais. C'est en combinant le tabac plus l'alcool existant et en rajoutant le cannabis. Parce que rien ne prouve que les gens qui sont déjà consommateurs des deux autres ne vont pas rajouter le troisième. Mmh. On va avoir des cas psychiatriques créés par cette nouvelle molécule, le THC.
Emmanuel Auriol.
Oui, donc je voulais rebondir sur ce que disait Bertrand. En fait, effectivement, toutes les études économiques sérieuses qui ont étudié l'aspect, c'est très très important ces questions. Est-ce que si, même si le cannabis est moins dangereux, si ça amène les gens à fumer ou à boire, c'est dramatique. Donc toutes les études montrent que le cannabis, enfin en tout cas la plupart d'entre elles, que le cannabis est plutôt un substitut à l'alcool et pas un complément. Et pour le tabac, c'est lié à la prohibition, à la complémentarité. Parce qu'en fait, quand vous achetez un produit sur un marché illégal, vous voulez être le plus près possible de la plante. Parce que vous ne savez pas du tout ce qu'ils mettent dans des liquides ou dans des barrettes. C'est trafiqué, c'est des gens qui sont malhonnêtes, c'est des criminels qui vous vendent ça. Et ce qu'on a vu au Colorado, c'est qu'avec la légalisation, la part de ceux qui ne se fument pas, qui se consomment en cannabis mais qui ne se fument pas, a beaucoup augmenté. Donc il y a une substitution vers des produits qui sont moins dangereux pour la santé parce qu'ils ne viennent pas avec du tabac.
Justement. Stanislas Godon.
Oui, vous parliez de quelque chose de très intéressant, c'est notamment le taux de THC. Parce que ça va être certainement l'enjeu. C'est qu'à partir du moment où vous allez légaliser un produit qui sera donc contrôlé par l'État, si j'ai bien compris, il va y avoir un taux de THC bien déterminé.
Le THC, c'est la molécule active du cannabis.
Exactement. Et qui ne correspondra peut-être pas à tous les effets psychotropes que l'on connaît sur le cannabis extrêmement fort, avec des taux de THC qui sont nettement plus élevés. Deuxième élément, et là c'est la casquette du policier, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons un gros problème, notamment avec l'alcool au volant, et non pas forcément de l'alcool en consommation. Et vous savez que lorsque vous consommez et de l'alcool et du cannabis, vous avez 29 fois plus de chances d'avoir un manque d'attention et d'avoir donc un accident de la route. Et je pense à la répercussion notamment sur les jeunes, parce que c'est ça le drame, c'est d'avoir notamment cette jeunesse qui vient d'avoir son permis et qui serait exposée à des risques extrêmement, extrêmement graves, notamment dans le cadre des accidents de la route.
Je vois que les invités autour de la table veulent réagir à ce que vous venez de dire. On va marquer une toute petite pause, juste le temps de remercier Jean-Claude qui était avec nous depuis la Corrèze. Il est 19h37.
Europe 1.
À défaut de pouvoir l'interdire, doit-on pour autant légaliser le cannabis ? C'est notre débat jusqu'à 20h. A tout de suite sur Europe 1.
Vos invités Mathieu Béliard sur Europe 1, le docteur Bertrand Lebeau-Lebovici, médecin addictologue aux hôpitaux de Paris, et Paul Brousse à Villejuif, Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de police Alliance, et Emmanuel Auriol, professeur à la Toulouse School of Economics, co-auteur du rapport du CAE, le Conseil d'analyse économique sur le cannabis, comment reprendre le contrôle.
Santé, sécurité et économie, c'est le triptyque de ce débat. Faut-il légaliser le cannabis ? Clairement, nous reposons la question. Emmanuel Auriol, J'entendais ce que disait Stanislas Gaudon sur les taux de THC, la molécule active, la molécule psychotrope du cannabis. Aujourd'hui, dans ce rapport que vous avez remis au Conseil d'analyse économique, il y a cette idée que si c'était légalisé et géré par l'État, on aurait un contrôle sur le produit lui-même, sa production, sa distribution.
Oui, et sa qualité. Hein. Et donc, ce qu'on voit encore là dans les États qui ont légalisé aux États-Unis, c'est qu'en fait, les gens achètent pour beaucoup d'entre eux des produits faiblement dosés. La raison pour laquelle ils achètent des produits fortement dosés au marché noir, d'abord, c'est qu'on ne peut pas contrôler la qualité et qu'on préfère minimiser le nombre d'échanges. Donc, vous préférez avoir un produit fortement dosé que vous allez essayer de couper en petits bouts pour ne pas avoir trop d'interactions avec des dealers. Donc, le fait d'avoir un THC contrôlé, ça permet vraiment de dire aux gens vous achetez ça, exactement, et donc aussi de différencier, par exemple, les prix. On peut imaginer une taxation beaucoup plus forte comme pour, ça devrait être pour l'alcool, ça déjà, mais ça pourrait être encore amplifié sans doute. Donc on pourrait imaginer que des produits plus fortement dosés sont plus fortement taxés, puisque on sait très bien que...
Qu'on taxerait le taux de THC par exemple.
Oui, et je pense que c'est normal.
Dans le cannabis.
Oui, tout à fait.
Mais du coup, c'est quoi? C'est le consommateur, le client, pardonnez-moi, il est comme avec ses capsules de café, il choisit force 2, force 5.
Comme l'alcool, ou choisit 40 degrés, ou 12.
J'essaie de me projeter, j'ai pas encore été au Colorado depuis que c'est légal. Bertrand Lebovici, cette question du dosage de THC, c'est une question importante dans le débat que nous avons.
Ah bah oui, bien sûr. De même que on sait tous que le cidre et la vodka, c'est pas la même chose. Un cannabis à 5% de THC, un cannabis à 30% de THC, ça n'est pas la même chose, très, très clairement. Donc, c'est quelque chose qui intervient. Je voudrais pas devenir trop technique, mais je pense qu'on devrait dire lorsque les pays européens ou quand la France légalisera le cannabis. Parce que, à mon avis, c'est
inéluctable.
C'est inéluctable. Alors, encore une fois, il est tout à fait
possible. Stanislas Gaudon qui fronce les sourcils à côté de vous.
Non, il est tout à fait possible que je me trompe, parce que l'histoire avance à son rythme. Actuellement, les choses très
pour
clairement
vous,
s'accélèrent.
En l'état, c'est l'ordre. Mais là, clairement,
je vais vous raconter
un
une histoire assez marrante. C'est que j'étais aujourd'hui dans un colloque sur les utilisations du cannabis à des fins thérapeutiques. Parce que il y a un groupe d'experts qui vient de rendre aujourd'hui même ses conclusions. Et le même jour, le Conseil d'analyse économique rend son rapport sur la légalisation du cannabis récréatif cette fois-ci. Et donc, on voit bien que les choses sont en train de changer très profondément. Donc, il y a des questions qui se posent. Par exemple, vous évoquiez la conduite sous l'influence de l'alcool et du cannabis. Bien sûr que c'est un problème. C'est une très mauvaise idée. D'abord, c'est une très mauvaise idée de conduire lorsqu'on a consommé des substances psychoactives. Mais l'association de l'alcool et du cannabis, elle est très dangereuse parce que l'alcool, c'est un désinhibiteur, donc on se prend pour Fangio. Et le cannabis, ça trouble un petit peu les choses. Et donc, l'association des deux... Alors, le facteur 29, je ne suis pas d'accord, mais ça multiplie l'accidentalité d'un facteur 10.
Donc il faudrait accompagner de mesures très strictes de répression pour quiconque conduirait sous l'emprise du cannabis. Stanislas Gaudon.
Alors juste, parce qu'il y a un autre volet et qu'on va peut-être évoquer, c'est la partie économique. Parce que vous savez, il y a des études qui ont montré que le cannabis, c'est à peu près 1 milliard d'euros qui sont générés en termes d'argent.
Il y a plusieurs chiffres. Vous avancez même 2,5 milliards, c'est ça au
Je parle sur le territoire national. Ça, c'est une...
C'est très sous-estimé. Hein.
Oui, probablement, parce que il y a.
C'est
toute
des
la
chiffres
partie
qui datent de 2004.
Alors, si on part, même, admettons, partons sur 2 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez une seule seconde que toutes les personnes qui sont dans les flux financiers, dans les organisations criminelles, avec cette somme d'argent, vont abandonner le terrain? Je ne crois pas. Et je pense qu'il va y avoir un transfert. Alors, je ne parle pas de consommation, mais je pense qu'il va y avoir un transfert, notamment de trafic de stupéfiants, sur le deuxième élément qui arrive juste derrière le cannabis, qui est la cocaïne, et qui est en train, d'ailleurs, d'inonder... y compris toutes les couches sociales, puisque le prix du gramme a nettement diminué. Maintenant, il est accessible à tout le monde. Il n'est plus réservé à une élite. Et nous, les policiers, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus confrontés à notamment ce transfert vers notamment des drogues comme la cocaïne, l'ecstasy ou les drogues de synthèse.
Emmanuel Auriol.
Oui, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Cette idée qu'on ne peut pas légaliser le cannabis parce que sinon, ils vont se mettre à vendre de la cocaïne à tout le monde, ça, je le crois pas. D'abord, il y a une question de taille de marché. La cocaïne, c'est quelques centaines de milliers de personnes, 300 000 personnes qui en consomment. Le cannabis, c'est plusieurs millions. 400 000. Donc, oui, mais voilà. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, moi, j'habite en Ariège. Dans le collège de mes enfants, il y a des dealers. Voyez, donc ça, c'est absolument pas acceptable, je trouve. Mais c'est comme ça. Donc, parce que le cannabis, ça se vend à tout le monde. Donc, effectivement, ils irradient le territoire français. Et du coup, ils peuvent vendre autre chose, hein, puisque quitte à vendre du cannabis, on peut aussi vendre de la cocaïne, des amphétamines, des tas d'autres produits. Si vous supprimez le marché du cannabis, ils ne vont pas avoir des millions d'usagers parce que justement les gens savent.
Que dites-vous que le cannabis pour ces trafiquants, c'est un produit d'appel?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des rendements d'échelle, comme on dit en économie. Si vous vendez du cannabis, vous pouvez aussi vendre d'autres substances illégales. Et donc, ça ne protège pas du tout les enfants, ça, qu'ils soient en contact avec des dealers de cannabis, parce qu'il suffit qu'ils en repèrent.
Qui ont plusieurs produits sur leur étal. Mais alors là, je me tourne aussi vers l'addictologue, excusez-moi Bertrand Lebollet-Bovici, mais il y a un facteur interdit qui joue quand même pour les mineurs, mais pas seulement. C'est... Non ? Bah, personne ne
écoutez,
consomme
il a,
pour...
Il a peut-être joué, mais enfin...
Il ne peut pas jouer, il n'est pas appliqué.
Il ne joue plus son rôle. Alors, c'est une question très compliquée que la question de l'application de la loi.
Excusez-moi, je viens de comprendre ce que vous... Non, mais je me suis mal exprimé. Mais je pense à des plus jeunes qui veulent repousser les limites, qui veulent aller vers l'interdit. Si le cannabis est autorisé, ils iront vers un autre interdit.
Oui, il ne sera jamais autorisé aux mineurs.
Vous savez, les débats sur la légalisation des drogues ou de telle ou telle substance, on retrouve toujours, toujours, toujours les mêmes arguments. Alors, l'argument que vous utilisez et qui consiste à dire si on légalise le cannabis, eh ben, les dealers vont se reconvertir dans la cocaïne, c'est un argument qu'on entend depuis très très longtemps, mais malheureusement qui ne justifie pas grand-chose. Le fait que, alors que le cannabis est interdit, alors que l'usage de cannabis est interdit, il y ait une consommation considérable de cannabis par des gens très jeunes, bien sûr que ce n'est pas une bonne chose. Qu'un môme de 13 ans qui va au collège ou au lycée et qui fume un joint sur le chemin du collège, qui s'installe pour assister aux cours de maths ou d'histoire, est-ce que c'est une bonne idée? Bien sûr que non, il va rêvasser. Donc, il y a un certain... Enfin, on ne peut pas faire nain. Vous savez, il y a cette phrase qui dit « On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus ». Bon, ben, on peut faire beaucoup de choses avec le cannabis, des choses bonnes et des choses très mauvaises.
19h47.
Europe 1.
Vous restez bien avec nous. Je vois que Christophe nous a appelé depuis la Seine-et-Marne. On va le prendre en direct avec mes invités autour de la table, le docteur Bertrand Lebollet-Bovici, Emmanuel Auriol et Stanislas Godon. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Vos invités, Emmanuel Auriol, professeur à la Toulouse School of Economics, co-auteur du rapport du CAE, le Conseil d'analyse économique sur le cannabis. Comment reprendre le contrôle? Docteur Bertrand Lebollet-Bovici, médecin addictologue aux hôpitaux de Paris, et Paul Brousse à Villejuif. Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de police Alliance. Vous intervenez au 3921.
Dernier tour de table sur ce débat et Christophe est avec nous en Seine-et-Marne. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur Europe 1. Vous êtes gérant d'une entreprise d'articles de sport. Et je vois sur ma fiche que vous revenez du Colorado.
Alors en effet, une petite quinzaine de jours, j'ai navigué entre le Colorado, l'Utah et le Nevada. Mm-hmm. Et chaque année, voilà, je fais ce périple-là lié à ma profession, on va dire. Et déjà, donc, j'ai abordé ce sujet il y a déjà quelques années avec des locaux. Et effectivement, ils peuvent me confirmer que la légalisation au Colorado a sauvé les finances de l'État. Mais d'un autre côté, quand j'en discute avec un ami policier sur Los Angeles, où c'est aussi en voie de légalisation, lui, il me confirme l'explosion des interventions, des accidents, enfin, et l'augmentation de la criminalité liée à ça.
Christophe, je vais me tourner pour le coup. Le Conseil d'analyse économique a étudié la question de ces pays justement qui ont légalisé ou qui ont vu leur législation évoluer, parce que c'est pas toujours une légalisation. Vous contestiez, je vous voyais Emmanuel Auriol, ce que disait Christophe.
Ah oui, tout à fait. Hein. Donc la légalisation, toutes les études sérieuses le montrent, s'accompagne d'une baisse de la criminalité. Très récemment, par exemple, ce qu'ils ont fait, je pense qu'on devrait faire pareil en France, ils ont fait des prélèvements des eaux usées dans l'État de Washington avant la légalisation et après. Donc ça permet de mesurer non pas la consommation individuelle, mais la consommation d'une
société,
d'une communauté,
d'une communauté.
Et ce que montrent ces études, donc évidemment la légalisation s'accompagne d'une augmentation des consommations de l'ordre de 9%, c'était sur un trimestre. Par contre, l'augmentation des ventes légales, c'était sur la même période 70 à 80%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que les criminels perdent des clients, hein, parce que vous avez une augmentation massive des achats légaux et pas une augmentation massive de la consommation.
Mais alors, pardonnez-moi, je vous coupe sur les criminels, sur les dealers qui sont déjà en fil rouge depuis le début de ce débat. Dans ces pays où la législation a changé, vous n'allez pas me dire qu'ils ont repris des études et qu'ils sont installés dans une activité normale.
Alors, ils ont fait des très gros efforts, notamment pour les petites mains du trafic, pour les réinsérer. C'est quelque chose qu'on aborde dans le rapport, hein, puisqu'on a des banlieues qui sont infestées par ces trafics. Donc, c'est une question qui revient souvent. Que deviendront ces gens ? Mais ce qui est certain, c'est qu'en affaiblissant notamment les têtes de réseau, parce qu'ils ont moins de profits, on s'aperçoit que la criminalité baisse. Et les canaux identifiés, ils sont doubles. D'une part, ils ont moins de profits, donc ils sont plus faibles. D'autre part, la police en fait se redéploie sur d'autres crimes, donc les viols, les meurtres, et même à la frontière mexicaine, par exemple, on a constaté une baisse de la criminalité parce que effectivement, il y a moins de trafic entre la frontière mexicaine et donc la Californie.
Stanislas Godon, je me mets à la place du policier qui n'a absolument pas envie de récupérer une population qui fume des joints au volant et qui sur bien des aspects, ça peut amener peut-être aussi à d'autres formes de délinquance, comme quand on circule à pied ou en voiture, hein, en état d'ébriété. Mais je me dis aussi que quand on voit l'effet de cette politique que nous avons depuis des décennies en France, vous devez vous décourager, vous devriez presque vous dire au moins si c'était légal, ce serait plus notre mission.
Non, parce qu'en fait, on s'occupe pas réellement des réseaux. Et vous le disiez très justement, il y avait 1 million d'heures qui étaient générées par rapport au fait que on interpelle des individus, on a une procédure pénale qui est extrêmement lourde. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que je suis un peu inquiet, parce que l'État qui va s'occuper de la légalisation du cannabis, qui va donner des moyens, bon, ça me laisse perplexe, parce que les policiers de terrain que je représente, les offices centraux, ceux qui sont au quotidien, je peux vous dire qu'eux, ils voient pas beaucoup la couleur, notamment de l'argent qui serait alloué à la lutte contre les stupéfiants. D'ailleurs, on attend toujours les véhicules qui seraient redistribués, les véhicules de saisie, les saisies financières qui pourraient être ventilées, notamment pour payer du matériel pour les policiers, par exemple. Donc tout ça, pour l'instant, on n'en voit pas trop la couleur. Mais bon, bref. Donc effectivement, nous, on n'a pas trop envie de se retrouver à gérer au quotidien, parce que le cannabis génère aussi des difficultés à autres. Je parlais tout à l'heure de la sécurité routière, mais pour ceux qui sont dans la difficulté financière, ça génère aussi toute la délinquance au quotidien, la délinquance de droit commun, comme les vols par exemple, ce que l'on voit d'ailleurs avec des drogues très bon marché, comme par exemple le crack. Donc j'en reviens aussi à cette difficulté sur ce transfert, notamment sur d'autres drogues, s'il devait y avoir une légalisation, parce que ça, je suis persuadé que c'est ce qui va arriver. Les 1 milliard d'euros vont forcément ne pas échapper à ces individus.
Emmanuel Auriol ?
Oui, alors on fait comme si la légalisation, ça voulait dire qu'on allait passer d'un état où on ne consommait pas du cannabis à un état où on en consommerait. On en consomme déjà, je veux dire, des gens qui conduisent avec en sous-emprise de cannabis, il y en a plein, puisqu'il y a plein de gens qui consomment du cannabis de manière illégale. Et pour revenir à votre point, qui est un point très juste, hein, sur les moyens financiers et matériels, il faut savoir, la légalisation, ça générerait quand même 2 milliards de taxes supplémentaires. Et ça, bon, pour l'instant, cet argent-là, il va dans les poches des dealers, hein, il ne va pas dans les poches de l'État. Et ces dealers ne sont pas localisés en France, hein, ils sont localisés dans d'autres pays. Par contre, je pense qu'il faudrait redéployer la police, je me permets de dire ça, parce qu'un des soucis qu'on a, c'est le non-respect de la vente, de l'interdit de vente aux mineurs de tabac, d'alcool, et si le cannabis était légalisé, sans doute de cannabis. Ça, c'est très important. Et aux États-Unis, une chose qu'ils font très bien, c'est qu'ils sont très stricts là-dessus.
Oui, mais c'est... Pardon, c'était déjà le cas sur le tabac. Hein. Je me souviens, aux États-Unis, impossible de vendre des cigarettes à un mineur.
Et donc, je pense que
aujourd'hui, en France, on n'arrive pas à faire respecter ça.
Oui, plutôt que d'arrêter des gens qui fument des joints dans la rue, il me semble qu'aller faire des planques pour aller vérifier si les commerçants vendent de l'alcool et vendent du tabac à des mineurs, ça serait quand même beaucoup plus utile, parce que s'ils ne peuvent pas en acheter, honnêtement, ils vont en consommer moins.
On est arrivé au bout de cette émission. Pour vous, Bertrand Lebovici, c'est juste d'un mot. Vous dites, oui. Là, vous mettez une pièce, vous dites, c'est le sens de l'histoire. Si on le fait pas dans un an, c'est dans deux. Si c'est pas dans deux, c'est dans cinq, quoi.
Non, mais bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, je vais essayer de faire un résumé en une seconde et demie. Jamais les humains n'ont été aussi avides de drogue qu'actuellement. de toutes sortes de drogues, de stimulants, de sédatifs, d'hallucinogènes. C'est comme ça. Bon. Et manifestement, la prohibition, et surtout ses formes les plus punitives, c'est un échec complet. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de pays, on n'a pas de raison de penser que les Canadiens sont des fous furieux, qui font n'importe quoi. Ils ont fait un travail tout à fait remarquable, les Canadiens. Il y a eu des mois et des mois de débats avant qu'ils ne légalisent le cannabis. Et je crois qu'effectivement, on peut peut-être le regretter, mais c'est le sens de l'histoire. Moi, je ne le regrette pas, en tout cas.
Merci à vous trois, Dr Bertrand Lebois-Lebovici, médecin addictologue aux hôpitaux de Paris, et Paul Brousse à Villejuif. Merci beaucoup. Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de police Alliance. Merci d'être venu ce soir. Emmanuel Auriol, professeur à la Toulouse School of Economics. Je crois que vous retournez vers Toulouse dans la foulée. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1,
co-auteur
de ce rapport du Conseil d'analyse économique. Cannabis, comment reprendre le contrôle ?
Europe 1.